Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Il y a quelques jours des fêtes de fin d'année, Franck Ferrand a décidé de donner des idées de cadeaux à nos auditeurs. Bonjour Franck.
Bonjour Julia, bonjour à tous. Oui, je me suis dit, pourquoi ne pas offrir des rubis, des saphirs, des diamants ou de grosses perles cette année, hein ? Je sais bien que c'est la crise, mais c'est pas une raison pour se montrer mesquin quand même.
Alors pour nous donner quelques conseils, vous avez fait appel à Vincent Mélan.
Eh oui, Vincent Mélan qui est au grand joyau, ce que Jérôme Bonaldi est au gadget électronique, disons. Alors le connaissant un peu, je suis certain qu'il va se charger d'emporter votre décision.
De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand.
Comme le poète, nous allons vous offrir aujourd'hui des saphirs, des perles, des colliers, des bouquets palpitants de rubis, de nacre, d'or et d'ambre, les pierres de légende puisées dans des mines inaccessibles, montées en parures étourdissantes d'habileté et dès lors scintillantes. Tout cela a fait tourner la tête, a toujours fasciné les trousseurs de rêves. Des trésors de Golconde aux émeraudes de la Bégome, en passant par ce diamant que Scott Fitzgerald voyait gros comme le Ritz, c'est tout un imaginaire qui s'attache à ces merveilles quintessenciées. Nous avons raconté ici le vol des joyaux de la couronne de France. C'était en septembre 1792, au garde-meuble de la couronne, qui se trouvait à l'emplacement de l'actuel hôtel de la Marine, place de la Concorde. Nous avons raconté ce cambriolage extraordinaire du diamant rose, fleuron du musée Condé de Chantilly. C'était pendant l'entre-deux-guerres. Eh bien, nous allons vous parler aujourd'hui des collections fabuleuses des impératrices Joséphine, Marie-Louise, Eugénie et de tant de grandes croqueuses de diamants. Les joyaux fabuleux ne sont pas seulement au cœur de notre imaginaire. On peut dire qu'ils sont le moteur de toute une littérature, notamment en Occident. Des 12 ferrets de la reine dans les Trois Mousquetaires d'Alexandre Dumas, aux mines de Falun, le comte d'Hoffmann, ils imprègnent le cinéma. Songez aux perles de la couronne de Sacha Guitry. Songez aussi plus récemment, évidemment, à Titanic, hein, avec ce diamant bleu baptisé cœur de l'océan, équivalent romanesque du Hope Diamond et qui finira au fond de l'Atlantique Nord comme le paquebot lui-même et comme la plupart de ses occupants. Quant à l'opéra, nous avons tous à l'oreille le célèbre air des bijoux du Faust de Gounod. Faust, diaboliquement secondé par Méphisto, a déposé sur le perron de Marguerite une cassette pleine de merveilles. Ne me demandez pas comment toutes ces merveilles, comment tous ces joyaux sont arrivés là. Ils y sont arrivés par le pouvoir magique de Méphisto. Alors, la jeune fille est arrivée et elle a commencé à entrouvrir la cassette, d'abord avec un peu de timidité. Est-ce qu'elle a le droit de le faire? Et puis, peu à peu, on l'a vu se parer des pendants d'oreilles, du collier, du bracelet. Elle a tiré du fond de la cassette un miroir. S'est regardée dans ce miroir tout étincelante des joyaux dont elle venait de se parer. Ah, je ris de me voir si belle en ce miroir. Elle ne s'est pas rendue compte, pauvre Marguerite, qu'en vérité, c'est son âme qu'elle est en train de mettre en péril. Dieu, c'est comme une main qui sur mon bras se pose.
C'est comme une main qui sur mon
L'air des bijoux sur Europe 1, un extrait du Faust de Charles Gounod. A tout de suite avec Franck, nous parlons des joyaux d'hier à aujourd'hui.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Et avec votre premier invité, Franck, sur Europe 1, Vincent Mélan, qui est chef du service Histoire du magazine Point de Vue. Il est historien spécialisé des pierres précieuses et de la haute joaillerie.
Bonjour Vincent Mélan.
Bonjour.
Je suis ravi de vous accueillir. Vous êtes le grand spécialiste des gemmes, des pierres, des joyaux, des bijoux. On a l'impression un peu de l'ère des bijoux de Gounod quand on vous voit arriver dans un studio. Et là, vous nous ravissez.
Je ne chante pas.
Vous ne chantez pas, non. Ça s'appelle Trésors et légendes, Van Cleef et Arpels. Alors, évidemment, vous vous êtes intéressé à tous les joyaux de cette maison bien connue, évidemment. Mais d'une façon générale, c'est un moyen aussi de s'interroger plus profondément sur le phénomène de fascination qu'on peut avoir pour toutes ces pierres.
Vous savez, moi j'ai absolument aucun recul par rapport à ça. Ce que j'aime dans les pierres précieuses, c'est le fait de rêver. C'est le fait de quitter la réalité pour partir dans l'imaginaire. Et c'est vrai que dans le cas de ce livre, j'ai utilisé en fait les bijoux, les pierres précieuses comme support de rêve. Ça m'a permis de raconter tous les destins qui étaient autour de ces bijoux, que ce soit des bijoux très très historiques et très anciens qui sont arrivés dans les années 50 parce que les descendants de ceux qui les avaient commandés sous Napoléon Ier, Louis XIV ou Dieu sait quoi, étaient obligés de les vendre, ou alors, à l'inverse, des bijoux qui avaient été créés dans les années 50-60 et qui existent encore aujourd'hui. Mais à chaque fois, c'est le même principe. La pierre et le bijou, c'est le vecteur du rêve au travers des personnages historiques ou contemporains qui l'ont possédé, qui l'ont commandé, qui l'ont aimé, qui l'ont volé, qui l'ont tué pour l'avoir.
Ce qui est extraordinaire, c'est qu'on va venir, bien sûr, sur un certain nombre de grandes aventures qu'ont vécu ces joyaux, mais entre la pierre, qui est une sorte de témoin immarcessible, qui traverse le temps sans jamais être atteint, sauf lorsqu'on la retaille, évidemment, et le bijou lui-même, c'est-à-dire la monture, l'allure que ça prend, la forme de la parure, on peut dire qu'on est aux antipodes. D'un côté, le temps long, et de l'autre, la mode, la vogue, tout ce qui est l'écume.
C'est l'opposition entre le fond et la forme, mais c'est aussi effectivement l'opposition entre le trésor et la légende. La pierre est un trésor, et quand elle devient l'objet de désir, qu'elle est montée, qu'elle est désirée par des femmes, achetée, vendue, etc., elle devient une légende, parce qu'il y a tout un tas d'histoires qui se raccrochent à cette pierre.
Alors si l'on devait résumer l'apport de Van Cleef et Arpels à la haute joaillerie, parce qu'il y a d'autres grandes maisons, hein, les Boucherons, les Mellériaux, les Cartier, etc., qu'est-ce qui fait la spécificité de cette maison-là?
Moi, je pense que la grande constante de cette maison, c'est quand même la qualité extraordinaire des pierres qui sont passées dans cette maison. Et ça existe encore aujourd'hui. On l'a vu encore à la dernière Biennale des Antiquaires, il y avait des diamants absolument sublimes. Il y avait des rubis de Tanzanie qui étaient des pierres à tomber par terre avec un rouge fabuleux. Et la qualité constante des pierres chez Van Cleef & Arpels, c'est une chose fabuleuse. Le style, il y a des évolutions, il y a des périodes qu'on aime, il y a des périodes qu'on n'aime pas, puis il y a aussi des périodes qu'on n'a pas aimées à une période, puis qu'on aime plus tard, parce que le goût évolue. Donc il y a vraiment la qualité extraordinaire des pierres, c'est une chose fabuleuse, et puis il y a une autre chose qui est très très forte, parce que moi je leur rends toujours hommage, c'est très important de parler d'eux. C'est vrai qu'il y a des pierres, il y a des bijoux, il y a des destins, mais il y a aussi les gens qui travaillent et le savoir-faire qu'il y a autour de ces pierres. Ça, il faut quand même savoir une chose, c'est que Paris est la capitale d'un savoir-faire dans le monde de la haute joaillerie qui est absolument fondamental. Ça représente des dizaines de milliers de personnes qui travaillent là-dedans, qui ont un geste, qui a une précision. C'est de l'artisanat ou de l'art.
Au plus haut niveau, vous savez,
percer des trous dans du métal pour enchâsser des pierres, c'est un geste qui est d'une précision extraordinaire. Polir du métal, ça se fait avec des fils de soie et une pâte abrasive. Et les polisseuses, elles ont 40 fils de soie, elles passent d'un fil après l'autre. Il ne faut pas que le fil se casse. Fabriquer des cires, parce qu'on fait les modèles en cire des bijoux avant de les exécuter, c'est un travail qu'on fait au millimètre. Et ça, c'est un savoir-faire qui est essentiellement français. Moi, l'exemple que je donne toujours chez Van Cleef & Arpels, ça se fait peut-être aussi chez d'autres joailliers, une monture est polie à l'extérieur, parce qu'il faut qu'elle brille à l'extérieur, mais elle est polie à l'intérieur. Parce que quand la lumière rentre dans une pierre, si elle se reflète sur des griffes à l'intérieur qui sont un peu
ternes,
elle ne ressortira pas de la même manière que si elle se réfléchit sur des griffes qui scintillent.
Et le but, c'est que la pierre scintille le plus possible, qu'elle ait le plus d'éclat.
Et ce sont des heures et des centaines d'heures de travail sur de l'infiniment petit, sous des microscopes, pour arriver à donner à cette pierre l'éclat le plus exceptionnel.
Alors, il y a un chapitre qui nous concerne plus particulièrement, ici, dans cette émission d'histoire, dans votre ouvrage. C'est le chapitre que vous avez intitulé « Le ballet des pierres », où l'on suit un certain nombre de grands joyaux historiques à travers les générations. Ça, c'est aussi assez fascinant, c'est que ces pierres, finalement, elles passent d'une souveraine à une autre, elles passent d'un personnage à l'autre et elles nous racontent leur histoire également.
Elle nous raconte leur histoire, et alors ce qui était fascinant dans ce chapitre, on est dans un domaine de la joaillerie qui est très très confidentiel. Tout ça est très compliqué, on ne sait jamais ce qu'on... Enfin, il faut faire attention à tout ce qu'on dit, tous les mots doivent être pesés. Alors moi j'ai une certaine liberté, de temps en temps je pousse la barre un peu loin, puis ça provoque un peu des évanouissements à droite à gauche, mais en général on s'en sort à peu près. Mais sur ce chapitre-là, il traite en fait de tous les joyaux historiques, impériaux, royaux, qui sont arrivés à un moment ou à un autre, c'est le cas, je vous citais tout à l'heure, de descendants qui ont vendu, souvent après la Seconde Guerre mondiale, des bijoux. C'est vrai que moi, comme j'ai eu accès à certains dossiers, je connais toute la trajectoire de ces bijoux, je connais le nom des propriétaires, je connais le nom des propriétaires actuels, et je ne peux évidemment pas dire tout ce que je sais. Donc dans ce chapitre, il a fallu que je surfe.
Entre ce qu'on peut raconter et ce
qu'on ne peut pas raconter. Alors toute la partie qui est historique, provenance, ça je peux la donner. Par exemple, c'est comme ça que j'ai retrouvé le diadème d'émeraude et de diamant de la reine Marie-Amélie. Mmh. On savait qu'elle en possédait un, par ses inventaires après décès, etc. Sa parure de saphir et de diamant, par exemple, est au Louvre. On savait que le diadème d'émeraude avait existé, mais on ne savait pas qu'il était passé chez ce joaillier dans les années 50. Et moi, j'ai trouvé dans un dossier l'unique photo. Je ne peux pas tellement dire plus que
alors,
ce que je vous dis là.
On va en parler tout à l'heure du diadème de la reine Marie-Amélie, l'épouse de Louis-Philippe, mais on va parler aussi des émeraudes de l'impératrice Marie-Louise et tout de suite de la légende de la Croix des Andes.
Franck Ferrand sur Europe 1.
Nous vous retrouvons, Franck, sur Europe 1 en compagnie de Vincent Mélan. Je rappelle qu'il est l'auteur de Trésors et légendes de Van Cleef & Arpels aux éditions Télémaque.
Il y a quelques années, vous aviez écrit un livre sur Boucheron et vous parliez déjà de cette fameuse Croix des Andes qu'on retrouve là dans l'ouvrage sur Van Cleef & Arpels. Vincent Mélan.
Et il y a 8 ans, j'avais écrit un autre livre qui s'appelait Bijoux de Rennes et je parlais déjà de cette Croix des Andes. Ouais. Parce qu'en fait, c'est un bijou qui me poursuit. Il y a des bijoux qui sont tellement exceptionnels. Ça vous donne une idée, en fait, de la richesse de la vie d'un joyau ou d'une pierre. Nous, on a au maximum 80, 85, 90, 95 années de vie. Une pierre ou un joyau a 2000, 3000, 4000 ans d'existence. Ouais. Donc, les pierres sont immortelles par rapport à nous. Et c'est pour ça que des tas de destins extraordinaires peuvent se greffer autour d'une pierre. Et la Croix des Andes, c'est un bijou que je retrouve toujours, parce qu'en fait, il est passé...
C'est une émeraude, il faut le décrire.
C'est une croix qui est taillée dans une seule émeraude. C'est vraiment un bijou extraordinaire, parce qu'en plus, l'émeraude est une pierre...
C'est un beau crucifix.
Oui, c'est une croix qui fait 7 à 8 centimètres de longueur.
On voit sur un certain nombre de portraits de la reine Victoria
Et de l'impératrice Eugénie, et de la reine Victoria Eugénie d'Espagne. Et ce bijou, en fait, le fait de le tailler dans une seule émeraude, c'est assez rare parce que l'émeraude est un peu friable. Donc c'est très compliqué. Et c'est un bijou qui a une trajectoire invraisemblable parce qu'en fait, la princesse de Metternich raconte dans ses mémoires qu'elle est présente à Versailles le jour où le roi d'Espagne, le mari de la reine Isabelle II,
dont
François, et offre à l'impératrice Eugénie une croix fabuleuse taillée dans une seule émeraude. C'est cette fameuse croix. L'impératrice Eugénie part en exil, c'est la princesse de Metternich toujours qui sauve ses bijoux de la Révolution. Elle raconte la scène dans ses mémoires, le jour où la femme de chambre est arrivée, elle a mis les bijoux dans ses souliers, dans ses sous-vêtements, elle les a emportés à Londres. Et dans les années 1885, l'impératrice Eugénie, qui a perdu son fils unique, souhaite donner la croix des Andes, qui vient d'une émeraude de Colombie, à sa meilleure amie, la reine Victoria. La reine Victoria d'Angleterre l'accepte, je cite le journal de la reine Victoria où elle raconte la visite. Et à la mort de la reine Victoria, cette croix des Andes est héritée par sa propre fille, la princesse Béatrice de Grande-Bretagne, qui a épousé un prince de Battenberg. Et j'ai eu une photo que j'ai découverte où on voit la princesse Béatrice portant cette croix des Andes. Et le détail fabuleux, c'est qu'en fait, la princesse Béatrice de Battenberg a elle-même une fille, la princesse Victoria Eugénie de Battenberg,
qui va épouser
le roi Alphonse XIII d'Espagne. Donc la Croix des Andes retourne en Espagne avec la reine Victoria Eugénie. Elle revient en France dans les années 30, parce que la reine Victoria Eugénie la vendra au début de son exil après la guerre civile espagnole. Et comme par hasard, je l'ai retrouvée chez Van Cleef & Arpels dans les années 70. On a d'ailleurs une photo de Pierre Arpels contemplant une vitrine dans laquelle se trouve cette Croix des Andes qui existe toujours. Qui est un bijou absolument fabuleux. Parce que avant de devenir une croix, est-ce qu'elle était portée par un Inca, par un empereur aztèque sans doute.
Comme il s'agit d'une émeraude et qu'elle est passée, certes très indirectement, par la reine Victoria et la princesse de Battenberg, elle est passée d'Eugénie à sa filleule Victoria Eugénia, ça me fait penser à d'autres émeraudes. C'est Michel de Grèce qui m'avait raconté cette anecdote du jour du mariage de Victoria Eugénie. Elle ouvre les différents écrins. Évidemment, elle est très attentive au cadeau que lui fait sa marraine, l'ancienne impératrice des Français Eugénie. Elle ouvre la boîte et en fait, il y a seulement 2 magnifiques éventails en nacre. Elle est un peu déçue. Et puis plus tard, en 1931, au moment de la Révolution espagnole, on vide les armoires, on essaie de récupérer les joyaux. Et à ce moment-là, une dame d'honneur soulève les éventails. On est donc très longtemps après, bien évidemment. Elle soulève les éventails et sous les éventails, il y avait de somptueuses émeraudes des collections de génie.
Il l'ont retrouvé un tout petit peu plus tôt. Ils les ont retrouvées un tout petit peu plus tôt, ouais. Les émeraudes. C'est pas tout à fait en 31, parce qu'en fait, si vous voulez, les émeraudes ont été montées dans les années 20 en un collier auquel, justement, la reine Victoria Eugénie avait suspendu cette croix.
Ah, voilà.
Donc les deux histoires dont vous me parlez se rejoignent, en fait. Les émeraudes que lui avait léguées sa marraine servaient de collier auquel était suspendue la croix des Andes.
Et la belle histoire, c'est que pendant l'exil de la famille royale d'Espagne, ce collier va servir, va être très utile, hein, parce que évidemment on peut marchander les pierres. Ça, c'est aussi leur rôle, c'est qu'elles peuvent servir de réserve, évidemment, et ça va permettre à la reine Victoria Eugénie de se loger, si je puis dire.
De toute façon, c'est ça qui est fascinant dans les pierres. Quand, de toute façon, les collections royales et les collections même particulières, on sait même un phénomène qui existe aujourd'hui. On sait très bien que des milliardaires dans des pays un peu de l'Est ont l'habitude d'acheter énormément de bijoux et de pierres précieuses en France, en Europe, et en général, ils les laissent dans des coffres à l'Ouest. Ils ne les transportent pas dans leur pays, parce qu'on ne sait jamais. Si vous avez un petit coup de camp de Sibérie,
c'est plus sûr, oui.
À un moment ou à un autre, au moins, vous avez quelque chose qui vous reste et qui est négociable. Mais c'est vrai que le destin de ces pierres est lié quand même à l'histoire politique, à des révolutions, à des exils, à des histoires d'amour, à des mariages. C'est ça qui est fascinant dans les pierres précieuses. C'est toutes les passions humaines qui sont autour. Et dans le cas des pierres royales, c'est vrai que on arrive souvent à des résumés de l'histoire de l'Europe qui sont absolument invraisemblables.
Alors, puisque nous étions dans une belle histoire d'émeraude, je vous propose d'en découvrir une autre. Nous allons parler d'émeraudes très anciennes et qui ont coûté la vie à certains explorateurs américains au début des années 1950. C'est le récit dans un instant.
Au cœur de l'histoire sur Europe 1, le récit de Franck Ferrand.
Et nous sommes actuellement au début des années 50 pour un récit autour d'émeraudes anciennes.
Juan Colledón était au tout début du XVIIe siècle un moine, certes, mais aussi un explorateur. Et pour le compte du roi d'Espagne, on disait à l'époque du roi des Espagnes, ce n'était autre à l'époque que le duc d'Anjou, petit-fils de Louis XIV, monté sur le trône madrilène sous le nom de Philippe V. Pour le compte de la couronne espagnole, Juan Colledón va se mettre à explorer. On est là dans les tout premiers mois du XVIIe siècle, en 1701-1702. Il va se mettre à explorer la côte nord du Pérou, très difficile d'accès car très montagneuse. La mission officielle du moine est de convertir les indigènes, les indiens du coin, on les appelle les chicalvos, mais il poursuit aussi, et disons-le, il poursuit surtout une mission plus officieuse, pour ne pas dire beaucoup plus secrète, retrouver un fabuleux trésor dont l'existence en ces contrées inaccessibles semblait attestée par de vieilles archives du temps de la conquête. Les conquistadors, sur leur extraordinaire aventure, avaient peu à peu découvert un certain nombre de lieux utiles, et notamment des mines, en l'occurrence des mines d'émeraude. Ils en avaient laissé une trace assez ténue, et il appartient à Juan Colledón, dans ce tout début du XVIIIe siècle, d'aller à la recherche de ces mines. En vérité, Juan Colledón n'est pas allé très loin, car on va bientôt découvrir son corps littéralement hérissé de flèches, des flèches en bois de chonta qui traversent son corps de part en part, mais dans l'une des poches de sa robe de moine complètement ensanglantée, on retrouve un petit sac de cuir, et dans ce sac de cuir, une demi-livre d'émeraude. Alors, c'est déjà intéressant en soi, mais les émeraudes en question sont si extraordinaires. Elles sont si magnifiques que, bien entendu, on a très envie de savoir d'où elles proviennent. En attendant, la couronne d'Espagne se contente de s'emparer du trésor et l'on fait enterrer le pauvre frère Juan Colledón avec tous les honneurs dus à son rang d'ecclésiastique missionnaire. Pendant 250 ans, une bande d'aventuriers, d'explorateurs, de gens cherchant partout fortune vont se mettre à parcourir cette jungle si difficile à explorer du nord du Pérou et du sud de la Colombie. Et ils sont à la recherche, bien entendu, même si tous ne l'avouent pas, ils sont à la recherche de la mystérieuse source des émeraudes de Juan Colledón, source que l'on pense être donc une mine perdue, probablement aussi, sinon même plus importante que le gisement d'émeraudes de Mousseau, dont on parle tellement et qui a fourni la plupart des grandes pierres vertes qui ont littéralement irradié sur l'Europe dans les années 1700. En mai 1952, un Américain revient vivant avec 8 émeraudes d'une valeur estimée à un quart de million de dollars tout de même. Mais quand je dis qu'il revient vivant, c'est qu'il a laissé derrière lui 2 compagnons morts. Et au-delà de ces 2 compagnons, toute son équipe, car vous allez voir que c'est un véritable bain de sang qui se prépare. Tout avait commencé au début de 1952, quand 3 anciens marines, ils s'appellent Paul Vestris, Jack Poulis et Sandy Clemens, décident de mettre en commun leurs économies pour monter une expédition avec comme but affiché cette fois de retrouver la fameuse mine d'émeraude perdue du moine Coledon. Ils ont pris un guide, c'est un mineur colombien qui avait été rencontré par Poulis aux États-Unis. Ils le rejoignent, ce Colombien, le 2 mai 1952 dans un hôtel de Bogota. Et donc ils sont désormais 4. Le guide s'appelle Pepe Arica et devant les 3 Américains éberlués, il va ouvrir une petite bourse en cuir et poser sur la table 2 émeraudes brutes d'une 20aine de carats. Mais si vous connaissez l'emplacement de la mine d'où viennent ces émeraudes, pourquoi est-ce que vous avez besoin de nous ? Demande Vestris. Vestris est le plus méfiant des 3 Américains. Oh, parce que j'ai déjà échoué 2 fois dans la bataille contre les Indiens Conibos, répond le guide colombien. Et oui, car le gros problème, c'est que cette fameuse mine de Coledon se trouve dans une région qui alors, en 1952, est encore aux mains des Indiens. Au matin du 7 mai 1952, Pepe Arica et les 3 Américains partent de Bogota. Alors, ils vont cheminer sur le Rio Guavire, qui est à l'époque en crue. C'est difficile. On pose beaucoup de questions autour d'eux, bien entendu. Mais officiellement, il s'agit d'une mission scientifique pour l'Institut de technologie du Massachusetts. Et puis, arrivé tout à fait au sud du Rio, eh bien, le navire à vapeur ne peut pas aller plus loin. Et là, il va falloir continuer à dos de cheval, à dos de mulet, car de plus en plus, les chemins sont extrêmement durs, à flanc de montagne. Les 4 blancs sont accompagnés de 23 peones, c'est-à-dire les peones, hein, c'est les porteurs locaux qui sont tous d'origine indienne, évidemment, mais qui ne sont pas très au courant de ce qu'on cherche. Pepe Arica guide l'expédition à travers la montagne, et puis, assez vite, on découvre de premières émeraudes. On trouve surtout l'entrée d'une véritable mine qui, visiblement, a été creusée et étayée par le moine Coledon au XVIIIe siècle, avec évidemment les grandes équipes qui l'accompagnaient. Le problème, c'est que ces galeries de mines sont littéralement infestées d'énormes araignées venimeuses qui rendent extrêmement difficile la progression. Qu'à cela ne tienne, dit Pepe Arica, creusons ici à côté de la mine, c'est là que moi j'ai trouvé mes 2 émeraudes. Alors, 2 semaines passent, et puis 3, et puis un jour, c'est la découverte incroyable de tout un ensemble d'émeraudes magnifiques. Alors on fête la découverte. Vous imaginez, tous ces hommes qui ont travaillé dur pendant plusieurs semaines, ils se saoulent ce soir-là. Et ils sont tellement ivres qu'ils ne voient même pas arriver les Indiens qui vont les transformer en charpies. Ce que racontera Vestris, le seul survivant de l'expédition, c'est un véritable cauchemar. Il a dû lui-même se faire passer pour mort, entassé comme un cadavre au milieu des corps sanguinolents de ses camarades d'abord et puis de tous ceux qui l'accompagnaient. Et il a passé comme ça 48 heures en faisant le mort avant de s'extraire discrètement avec la toute petite poignée d'émeraudes qu'il avait réussi à sauver de cette affaire. Il a réussi, on ne sait pas par quel moyen, parce qu'il était quand même percé lui-même de 3 flèches. Il a rampé littéralement, il s'est traîné jusqu'au village proche de Laetitia, et quand il a été rétabli avec ses émeraudes en poche, il a quitté la Colombie, bien entendu. Il a fait sa déclaration à un journaliste américain qui, au passage, lui a payé ce que valaient de telles confidences. Et puis, Paul Vestris a littéralement disparu. Il a changé de nom. Et on peut dire qu'avec le quart de million de dollars des émeraudes qu'il avait sauvées de cette épouvantable expédition, il s'est sans doute refait une vie. Il avait payé bien cher la redécouverte de la mine perdue du moine Juan Coledon.
Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Et jusqu'à 14h sur Europe 1, nous nous intéressons aux joyaux d'hier à aujourd'hui, toujours en compagnie de Vincent Mélan, qui est historien des pierres précieuses et de la haute joaillerie.
Alors nous parlions à l'instant de cette extraordinaire légende de la Croix des Andes. C'est vous qui l'avez appelée comme ça, la Croix des Andes?
C'est moi qui l'ai appelée comme ça, parce qu'elle vient des Andes, elle vient manifestement...
De Colombie, comme celle dont on vient de parler.
Les mines de Colombie, Chivor et Museau, qui sont les deux mines où on trouve les plus belles émeraudes du monde, sont de toute façon sous la cordillère des Andes. Donc on les trouve des deux côtés de la cordillère. C'est vraiment de là que viennent les émeraudes les plus fabuleuses. Et je voudrais juste rebondir un petit peu sur le collier de la reine Victoria Eugénie d'Espagne dont vous avez parlé tout à l'heure. Il se trouve que ce collier, il existe toujours. Et je l'ai vu il y a pas très longtemps, si vous voulez.
La splendeur du joyau lui-même s'ajoute toute la magie de son histoire, évidemment.
Et le fait que cette collection d'émeraudes de la reine, de l'impératrice Eugénie qu'elle a donnée à sa nièce, a été augmentée par la précédente propriétaire qui a rajouté encore d'autres émeraudes encore plus belles. Ça a été remonté par un joaillier. Et peut-être qu'un jour j'aurai le droit de raconter ce qui s'est passé et la suite de l'histoire de ces émeraudes espagnoles.
On vous le souhaite, Vincent Mélan. Alors passons du second temps. Au premier, en quelque sorte, et d'une impératrice à l'autre. Parlez-nous des émeraudes, encore, de l'impératrice Marie-Louise, la deuxième épouse de Napoléon Ier.
Alors ça, c'est une histoire qui est assez fascinante, parce que l'impératrice Marie-Louise, la deuxième épouse de Napoléon, avait reçu en fait en cadeau de noces deux parures importantes, une parure d'émeraudes et de diamants complètes, et une parure de mémoire de topaz rose et de diamants complètes. Son fils l'Aiglon est mort avant elle. À sa propre mort, elle a légué ses bijoux à ses cousins ou ses neveux Habsbourg. Et ces émeraudes sont restées dans la descendance de la famille de Habsbourg pendant assez longtemps, et une branche de la famille qui était installée à la fois en Hongrie et en Tchéquie, après la Seconde Guerre mondiale, est partie en exil, exactement, mais alors là, dans des conditions beaucoup plus difficiles que la reine Victoria Eugénie, dont on parlait tout à l'heure. Ils ont été vraiment chassés par les armées soviétiques.
Oui,
Ils avaient deux valises avec leurs vêtements et heureusement, les émeraudes de tante Marie-Louise qui étaient dans une des valises. Et ces émeraudes ont été proposés très vite dans les années 46, 47, 48 à des marchands européens, parce que ces Habsbourg chassés de leur pays avaient besoin de fonds pour vivre. Et une partie des émeraudes a été achetée par une collectionneuse privée. C'est principalement le cas du collier et des boucles d'oreilles que l'on peut aujourd'hui admirer au musée du Louvre.
Oui, puisque le Louvre s'en est porté acquéreur.
Le Louvre les a rachetés. Et c'est Van Cleef & Arpels qui a racheté le diadème, parce que dans les années 50, un diadème, c'était un peu compliqué à porter. Et ça donnait lieu à une chose absolument savoureuse, un peu regrettable, mais quand même assez amusante. C'est que les émeraudes ont été démontées du diadème. On les a remplacées par des turquoises.
Oui,
donc le diadème existe toujours. Et les émeraudes qui avaient été ôtées du diadème ont fait l'objet d'une publicité. J'ai reproduit le document en facsimilé dans le livre, tellement parce que je trouvais ça très drôle. Dans les années 50, on n'hésitait pas à utiliser l'image de Napoléon Ier pour vendre des émeraudes à New York. Et à l'époque, Van Cleef & Arpels, ça fait tout un prospectus publicitaire où on envoie le tableau du sacre avec un gros collier autour, et le slogan c'est « Offrez-vous une émeraude impériale ».
Ce qui prouve bien que cette histoire entre pour une grande part dans le rêve et dans la valeur, évidemment, de ces joyaux, hein, même s'ils sont plus ou moins dans l'état où ils ont vécu. Hein.
De toute façon, acheter un joyau, un bijou, même petit, c'est quand même un acte coûteux. C'est un acte superflu, parce qu'on n'en a pas un réel besoin. Donc c'est un acte qui est obligatoirement lié à un mouvement de passion ou à une décision un peu irréfléchie. Donc effectivement, la provenance historique prestigieuse fait partie de cet irrationnel qui peut inciter à l'achat.
Alors en 1974, cette grande maison dont nous parlons aujourd'hui s'est portée acquéreuse également d'un autre diadème impérial. Celui-ci appartenait à la première épouse de Napoléon, l'impératrice Joséphine.
Alors là aussi, c'est un diadème sur lequel on se pose des questions depuis des années, parce qu'on dit que Joséphine le portait le jour du couronnement. C'est pas tout à fait la vérité. En fait, si vous voulez, là aussi, moi j'ai vu le dossier en détail. Je sais auprès de qui Jacques Arpels l'a acheté en 1900, lorsqu'il l'a acheté. Et en fait, il n'y a pas de doute sur la provenance. Simplement, il y a eu un espèce de petit raccommodage sur le diadème à un moment ou à un autre. On l'a adapté, d'où cette forme en pointe un peu bizarre. Mais le bijou est fabuleux, parce que l'impératrice Joséphine l'a possédé.
C'est 880 diamants.
880 diamants, c'est vraisemblablement sa fille, la reine Hortense, qui en a hérité, qu'il a elle-même légué à son fils Napoléon III, qu'il a offert à son épouse l'impératrice Eugénie, qu'il a vendu en 1872 lorsqu'elle est en exil. Enfin, c'est un diadème qui a traversé toute l'histoire du 19e siècle et qui lui aussi existe toujours.
Il y en a un, on a sauté à pieds joints par-dessus, si je puis dire, puisqu'on est passé d'Eugénie aux deux impératrices épouses de Napoléon Ier. C'est le diadème de la reine Amélie, dont on disait un mot tout à l'heure pour commencer cette émission.
Ça, c'est un...
Marie-Amélie est donc l'épouse de Louis-Philippe, roi des Français.
L'épouse de Louis-Philippe, roi des Français. Elle possédait une parure d'émeraude et de diamant complète, dont moi, j'avais souvent entendu parler, parce que je la connaissais, je le disais tout à l'heure, par les inventaires. Et là, pour la première fois, j'ai trouvé une photo de ce bijou, parce qu'il est, il est apparu chez Van Cleef & Arpels dans les années 50. Et ce qui est assez amusant...
C'est vous qui avez retrouvé, dans ces moments-là, ça doit être extraordinaire, c'est une redécouverte.
C'est fascinant
en fait,
quand vous trouvez des choses comme ça, ouais. Parce que vous dites, ça y est, le truc dont j'ai entendu parler depuis 25 ans, il est là. Et je pense qu'en fait, tout ça n'arrive pas par hasard. Les bijoux, ils sont quand même une manière de se promener qui est assez étrange. Et très souvent, moi, quand j'écris un livre, il y a des gens qui me disent des choses... parce que comme je suis assez bavard, si vous voulez, puis la place Vendôme c'est tout petit, je parle beaucoup aux gens, et les gens me disent, tiens, vous écrivez sur tel truc, ben, vous savez, moi j'ai telle chose, j'ai tel truc, est-ce que ça vous amuserait? Le cas très précis qui est dans ce livre-là, c'est qu'il y a tout un chapitre sur l'Iran, et sur la commande du couronnement, et que très très gentiment, la Chabanneau m'a dit, vous savez, si ça vous amuse, j'ai toute une série de dessins que j'ai gardés, elle n'a pas les bijoux, mais elle a les dessins, les bijoux sont toujours en Iran. Très gentiment, elle m'a prêté les dessins qui sont reproduits pour la première fois dans ce livre.
Couronne de Perse était traditionnellement grande collectionneuse de bijoux, mais le chat, le défunt mari de l'impératrice Farah, était lui alors vraiment un grand collectionneur, il aimait ça.
Il y a une tradition en Iran des pierres précieuses, ce qui est fabuleuse, parce qu'en fait, pendant très longtemps, les pierres du trésor ont servi de garantie à la monnaie iranienne. C'est Reza Shah Pahlavi, donc le premier chat de la dynastie Pahlavi, qui avait instauré ça. Il a été le premier d'ailleurs à faire un inventaire du trésor pour qu'on ait sa valeur approximative. C'est un trésor qui est fabuleux. On peut le voir dans le livre, il y a vraiment des vitrines entières avec saladiers de pierres précieuses, d'émeraudes, de diamants. C'est un trésor qui a été pillé en Inde en 1739 par Nadir Shah, qui a pillé la ville de Delhi. Et ce trésor, en fait, a été utilisé plusieurs fois pour faire des bijoux destinés aux Chabanous, aux princesses de la famille, des couronnes pour les couronnements. C'était en fait une forme assez économique de faste, parce que on n'avait pas besoin d'acheter les pierres. Il y a un stock de pierres absolument inépuisable. Et en fait, tout ce que le joaillier fabriquait pour ce trésor, c'était les montures. Et ça a été l'un des exploits de la maison Van Cleef & Arpels. C'est Pierre Arpels qui s'est occupé de cette commande en 1967. On l'a mis dans la chambre du trésor. On lui a dit, écoutez, voilà, choisissez les pierres qu'il faut pour faire une couronne, 4 diadèmes, 5 colliers, 8 paires de boucles d'oreilles, tout ce que vous voulez. C'est un fantasme de joaillier. Puis en plus, c'était des pierres grosses. Et le problème, c'est qu'il n'avait pas le droit de les sortir de la banque. Donc en fait, il a fait des moulages en plâtre. On a fait des fausses pierres d'après ces moulages. Les montures ont été faites à Paris avec les fausses pierres. Les montures sans pierres ont été transportées à Téhéran, et les pierres du trésor ont été montées sur les montures dans un atelier spécialement aménagé dans les sous-sols de la Banque d'État à Téhéran, afin que les pierres ne sortent pas de la chambre du trésor et ne sortent pas du pays.
Tous ces joyaux magnifiques, on peut les voir dans votre ouvrage, parce que j'ai oublié de préciser qu'il est bourré de documents, de photos, de toutes sortes de reproductions. Donc c'est un livre magnifiquement édité par les éditions Télémaque. Trésors et légendes, Van Cleef et Arpels.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Un extrait sur Europe 1 de la valse L'or et l'argent composée par Franz Léard. Pour accueillir votre nouvel invité Franck sur Europe 1, il s'agit d'Evelyne Possémé.
Nous sommes au téléphone avec Evelyne Possémé, qui est conservateur en chef au Musée des Arts Décoratifs et commissaire de l'exposition Van Cleef & Arpels, puisque cet art de la haute joaillerie que vous nous présentez sous forme éditoriale, Vincent Mélan, se présente sous les yeux du public au Musée des Arts Décoratifs. Bonjour Evelyne Possémé.
Bonjour.
Merci de répondre à notre appel. Alors, vous avez vous avez magnifié ce nom qui, cela dit, n'avait pas besoin de vous pour être célèbre. C'est une des très grandes maisons de la joaillerie française que Van Cleef.
Non, c'est vrai qu'effectivement, le nom était déjà célèbre, mais détrompez-vous, les gens ne savaient pas forcément que c'était une maison de joaillerie française. Donc, beaucoup pensaient que c'était une maison de joaillerie installée à Paris, mais qui était étrangère. Or non, c'est bien une maison de joaillerie française installée depuis 1906, place Vendôme.
1906, oui, c'est la date de son installation sur cette place Vendôme. Vous exposez près de 500 œuvres dans ces...
Oui, près de 500 œuvres. Donc, un peu plus de 300 œuvres viennent de la collection privée de la maison Van Cleef & Arpels. Et un peu plus de 150 œuvres viennent de collections privées, quelques pièces du musée des arts décoratifs, de collections privées ou de galeries, de marchands spécialisés.
Alors évidemment, nous venons avec Vincent Mélan de parler d'un certain nombre de pierres historiques, donc on est remonté au 18e, au 19e siècle. Vous nous montrez les joyaux tels qu'ils ont été refaits.
Montés quand ce sont des pierres. Montés par la maison Van Cleef & Arpels, donc c'est un panorama de la création de la maison depuis son origine, enfin pas tout à fait parce que les premiers bijoux qu'on a retrouvés datent des années 1917-1918 jusqu'à nos jours, et c'est une exposition chronologique par décennies, les années 20, les années 30, les années 40 et ainsi jusqu'à nos jours.
Donc, on voit l'évolution du goût, c'est assez passionnant ça d'ailleurs.
L'évolution, les constantes aussi, les constantes de la maison, l'évolution du goût en fonction des années, parce que...
L'orientalisme des années 20...
Avec l'inspiration égyptienne pharaonique, les années 30, enfin, chaque période, chaque décennie a vraiment sa marque. Enfin, donc, ce partage se fonctionne très bien et permet de voir à travers la maison Van Cleef & Arpels aussi l'évolution un petit peu de la bijouterie et de la joaillerie française.
Et là, oui, vous êtes parfaitement dans la mission du musée des arts décoratifs.
Voilà,
une évolution du goût et des styles, en quelque sorte.
Oui, tout à fait. Et en plus, il y a des dessins qui sont exposés, des documents, des films où on peut voir de très près les montures, parce que, bien sûr, dans des vitrines, c'est pas toujours évident et on ne peut pas manipuler. Donc, c'est certaines choses qui ne sont pas visibles directement, on peut le voir en détail sur des films. Il y a des vitrines techniques aussi.
Justement, j'allais y venir. Pour ceux qui se passionnent d'un peu plus près à cet art extraordinaire de la joaillerie, on voit les innovations techniques. S'inventer peu à peu tout ce qui fait aujourd'hui la joaillerie moderne.
Oui, et surtout que la maison Van Cleef & Arpels a créé de nouvelles techniques, les a améliorées, enfin, et il y a une qualité technique justement qui est très importante chez eux. Pendant toute leur histoire, ils ont été notamment les inventeurs du certis mystérieux, et qu'ils pratiquent toujours aujourd'hui, et ils l'ont inventé en 1933. Donc là, c'est vraiment, on peut dire que c'est l'avatar ultime de la joaillerie, puisque le but de la joaillerie, c'est de mettre en valeur les pierres précieuses, en faisant disparaître le plus possible la monture en métal. Et là, avec le certis mystérieux, le métal disparaît presque complètement aux yeux des gens qu'elle regarde. Mais si on retourne la pièce, on voit tout à fait la monture en métal. Mais sur la face, on ne voit que les pierres précieuses.
Visiter une exposition comme celle-là, c'était évidemment aussi revisiter l'histoire. Nous avons parlé des impératrices Joséphine, Marie-Louise, Eugénie. Il faudrait parler des grandes clientes de cette maison. De l'impératrice Faradiba, mais il faudrait parler de la Maharanée de Baroda, de la duchesse de Windsor, bien sûr, de la princesse Grace de Monaco, et de la comédienne Elisabeth Taylor aussi.
Oui, aussi. Parce qu'à chaque fois, pour chaque décennie, nous avons choisi une figure emblématique, une personnalité, pour pouvoir montrer le bijou porté. Donc, il y a quelques photographies, justement, de ces personnalités portant des bijoux de Van Cleef & Arpels. Et pendant toutes ces décennies, on aurait pu en choisir beaucoup plus. Mais bon, il n'y avait pas la place. Donc, on s'est limité aux personnalités les plus importantes. Et nous avons trois parures qui proviennent de la vente d'Elisabeth Taylor. Oui. Et nous avons des photographies d'Elisabeth Taylor portant ces parures.
Oui, c'est ça. C'est toujours assez impressionnant de voir la photo. on a voilà. l'objet sous les yeux, bien sûr.
Merci. Et il y a aussi toute une section sur les ateliers qui sont très importants. Mm-hmm. Et puis, il ne faut pas oublier que nous aussi, nous avons un splendide catalogue de toute l'exposition avec beaucoup d'images couleurs, justement dans cet ordre chronologique avec des grands cahiers couleurs sur les années 10, les années 20, sur toutes ces périodes de la création de Van Cleef & Arpels.
Mais vous avez raison, Evelyne Possemé, il n'y a pas que les ouvrages de Vincent Mélan.
Oui,
merci beaucoup de nous avoir répondu.
Notre catalogue qui est, je pense, très beau.
L'exposition est au Musée des Arts Décoratifs, donc à Paris. C'est jusqu'au 10 février prochain. Merci beaucoup.
Voilà.
Vous étiez évidemment le premier des visiteurs, vous, Vincent, dans cette...
J'étais le premier des visiteurs. J'adore cette exposition. J'y retourne d'ailleurs. J'y suis allé plusieurs fois. Et je pense que j'y retournerai avant la fermeture. C'est un lieu qui est magique. La nef est spectaculaire. On a l'impression d'être dans une cathédrale. Et c'est vrai que moi, ayant évoqué le destin de toutes ces femmes que vous parliez dans mon livre, évidemment que j'ai envie de voir leurs bijoux. Vous avez évoqué très rapidement la Maharanie de Baroda,
mais oui,
qui est sur la couverture du livre. C'est un personnage hallucinant. C'est un personnage qui avait des caisses et des caisses de pierres précieuses, qui vivait avec ses diamants, ses rubis, ses émeraudes en permanence. Elle les portait matin, midi et soir. Il y a des jours où elle va 15 fois par jour chez Van Cleef & Arpels.
Elle porte sur la couverture, elle porte des perles absolument
énormes,
extravagantes.
Mais on le voit dans le livre, si vous voulez. En plus, je pense que Van Cleef & Arpels avait aussi une activité de conseil vis-à-vis de ses clientes. Mm-hmm. Donc, il y a énormément d'inventaires qui ont été faits dans les années 50, et moi, j'ai retrouvé ces inventaires. Donc, on a le détail des coffres à bijoux de toutes les clientes, si vous voulez. Et dans le cas de la Maharanie de Baroda, il y a tous les bijoux. Elle porte sur la couverture un collier de perles à trois rangs. Les perles sont grosses comme des olives, à peu près.
Oui.
Ce sont des perles fines, ce ne sont pas des cultures, évidemment. Et en fait, dans l'inventaire, il y a les photos. On voit très bien qu'elle avait ce collier à trois rangs, mais qu'elle en avait aussi un à six rangs, un autre à quatre rangs, un autre à trois rangs, qu'elle avait tout en rouge, c'est-à-dire en rubis, tout en vert, c'est-à-dire en émeraude, tout en bleu, c'est-à-dire en saphir.
Alors, on a beaucoup parlé d'émeraude ensemble. Aujourd'hui, on aurait pu parler effectivement des rubis, car il y en a sublimes, mais on n'a plus le temps de le faire. Ce que je peux faire simplement, c'est renvoyer nos auditeurs à votre ouvrage, Vincent Mélan. C'est aux éditions Télémac et ça s'appelle Trésors et légendes, Van Cleef & Arpels, bien entendu. Vous nous avez fait rêver une fois de plus. Merci beaucoup.
Merci à vous.